Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et je vous rappelle que dans un instant, nous ouvrons notre débat sur les enlèvements de jeunes élèves dans leurs établissements ou internats au Nigeria. Dans l'immédiat, retrouvons notre invité sur la Libye.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
El Marabet, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président de l'Association de la jeunesse libyenne en France. La récente élection du Premier ministre de transition Abdelhamid Beïba aurait été entachée de corruption. Comment réagissez-vous à ces informations?
Vraiment, moi, ça ne me choque pas. On sait comme quoi, là-bas, chez nous, ici, il y a la corruption, il y a tout. Eh bien, on aura toujours cette action. Et puis, ça ne me choque pas. Bon, je pense... C'est vrai, et puis c'est faisable en Libye, c'est comme ça.
Quand vous dites c'est comme ça, cela veut dire que vous acceptez cette situation?
Pour moi, c'est réel, et puis je pense c'est vrai. Il y a la corruption, il y a la fraude, et puis il y a des gens qui étaient payés puis pour qui donnent leur voix à quelqu'un, et puis c'était payé. Pour moi, c'était... C'est faisable, hein. C'est faisable, c'est possible. Je ne suis pas sûr, on n'a pas les preuves, mais par contre, pour moi, c'est possible.
Quand vous dites que c'est possible, cela veut dire que vous n'êtes pas surpris par ces accusations?
Bien sûr, on a entendu, moi, tant que je suis un Libyen, j'ai entendu comme quoi il y a des gens qui négociaient avec les 75 membres de temps en temps, qui essayent de lui payer quelque chose pour qu'ils achètent leur voix. Et puis, on savait depuis le début comme quoi il y a des choses comme ça. Hein. C'est pas normal, c'est un problème, c'est un gros problème, mais c'est comme ça. Moi, je sais comme quoi il y avait des choses, des négociations, des fraudes comme ça, mais c'est pas normal. On l'accepte pas. Moi, quand je dis, j'étais sûr comme quoi il y avait des fraudes, il y a les négociations comme ça, et puis ça veut pas dire comme quoi j'accepte ça. Moi, je suis contre, c'est la honte. C'est un grand problème, mais c'est comme ça. On sait comme quoi c'est des gens, les 75 qu'ils étaient à Genève.
Les 75 délégués qui ont participé, oui, à la réunion de Genève de début février.
Oui, c'est ça. Et puis les gens, ils étaient choisis par hasard comme ça. Ils n'étaient pas compétents. Puis je connais des gens comme quoi ils n'étaient pas top. Ils n'étaient pas ils connaissent pas très bien la politique. Et ils n'ont pas l'expérience de pratiquer la politique. Et puis on pensait et on était sûr comme quoi il y aura des problèmes comme ça.
Pour vous, est-ce que ces accusations remettent en question l'élection du Premier ministre de transition, M. Beïba?
Je pense que ce sera difficile de mettre ou accuser M. Beïba. C'est-à-dire, moi, j'accepte pas les fraudes, j'accepte pas la corruption. C'est vraiment la honte. Nous, on était depuis 10 ans, on attendait un état réel comme tout le monde, et puis il vient le gouvernement à travers une corruption. C'est la honte. Vraiment, on est déçus de ce qui s'est passé.
Est-ce que vous pensez qu'il faut faire une enquête pour savoir exactement qui est responsable de cette corruption présumée qui aurait entouré l'élection de M. Beïba?
Oui, bien sûr. Mais on souhaite, hein. On souhaite qu'il y aura une enquête de vérifier ce que c'est vrai ou pas, et puis vérifier ce que c'est, il y avait cette corruption ou pas. Nous, les Libyens, s'ils passent comme ça, on laisse les choses passer comme ça, puis on n'aura pas de confiance en notre gouvernement.
Vous n'aurez pas confiance en M. Beïba et du gouvernement, oui, qu'il va former?
Oui, tout le monde. Ils n'auront pas la confiance, M. Beïba, et son gouvernement. Et puis, on souhaite éclairer les choses et qu'on aura une enquête qui éclaire les choses pour qu'on connaisse la confiance à lui ou peut-être on le change ou on fait des autres élections. Hein. Je ne sais pas, ça sera comment, mais l'essentiel, qu'on est au courant, qu'on soit au courant, pour le temps qu'on connaît des Libyens, qu'on soit au courant, est-ce que c'est vrai ou pas. Ça, c'est très important. Hein.
Et qui doit, selon vous, mener cette enquête que vous réclamez?
Ben, je pense que c'est les Nations Unies. C'est eux qui devront le faire, hein, je ne sais pas, mais pour
mais
moi...
Mais ce sont les Nations Unies qui ont conduit les travaux du Forum du dialogue politique qui ont donc abouti à l'élection de M. Bayiba. Est-ce que vous pensez que les Nations Unies seront suffisamment indépendantes pour conduire cette enquête?
Oui, bon, moi je pense, hein, et il faut, on espère qu'il sera les Nations Unies, pas les Libyens. Après, ça sera tout clair, même si ce n'était pas vrai, puis on sera tranquille, on se calme un petit peu. Tout le monde, là-bas en Libye, maintenant, ça bouge. Hein. Tout le monde, il parle de fraude, et puis tout le monde, ils ne sont pas contents. Il faut éclairer les choses, il faut préciser les choses. Si c'était vrai, il faut réagir. Si ce n'était pas vrai, on sera tranquille, et puis on les dépasse à notre étape.
El Barabet, merci beaucoup.
Je vous en prie. Merci. Au revoir.
Vous êtes président de l'Association de la jeunesse libyenne en France.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
18h14 à Paris, à Zender, à Cotonou et à Lagos. Merci de nous rejoindre pour cette édition du Grand Rendez-vous. Et je vous rappelle que ce soir, nous parlons de la lutte contre les enlèvements de jeunes élèves au Nigeria. Les moyens mis en place par le gouvernement fédéral et les autorités locales pour y mettre fin sont-elles suffisantes et adaptées? Nous en parlons ce soir avec quatre invités. Fête Ousundou, journaliste et pigiste et correspondante de France 24. Elle est en ligne de Lagos. Bonsoir, Madame Ousundou. Pas encore en ligne avec nous. Fête Ousundou, donc à Lagos. Et nous avons également le plaisir d'accueillir Dr Abdourahmane Diko, enseignant-chercheur spécialiste des questions sécuritaires et politiques à l'Université de Zender au Niger. Dr Diko, bonsoir.
Bonsoir, Madame.
Bonsoir, Monsieur Okpoko Ebenezer. Allô, Monsieur Ebenezer Okpoko, vous êtes là?
Oui, je suis là. Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous êtes avocat et membre de la diaspora nigériane ici à Paris. Et Julien Oussouf, coordonnateur régional du WANEP Bénin ou du West Africa Network for Peace Building. Bonsoir, Monsieur Oussou. Pas encore, me fait-on signe. Nous allons les retrouver dans un instant. Je vais commencer avec vous, hein, Monsieur Okpoku, qui est nigérian. Les 279 jeunes élèves ont été enlevés le 28 février dernier dans l'état de Zamfara. Ils sont donc libres. Le gouverneur de l'état qui les a reçus a déclaré qu'aucune rançon n'a été payée. Mais à votre connaissance, est-ce qu'il y a eu des cas où des élèves enlevés ont été libérés en échange de zéro franc, si on peut le dire ainsi, ou de zéro naira, puisque c'est la devise nigériane?
Vous savez, aucun gouvernement n'accepte qu'il ait versé une rançon pour la libération des otages. Et donc, je suis un peu... de toute façon, si le gouvernement dit qu'il n'a rien versé pour libérer les enfants, ainsi soit-il, mais j'ai des doutes.
Vous n'êtes pas convaincu, d'autant plus
non,
que le...
Non, pas une minute, pas une seconde même. Ce n'est pas la peine d'en discuter. Non.
Donc, vous n'êtes pas sûr qu'aucune rançon n'a été payée, d'autant plus que le président Bouhari lui-même a mis en garde contre le paiement des rançons qui, selon lui, encouragerait les ravisseurs à poursuivre leurs œuvres.
Non, j'ai énormément pour mon président qui est un homme âgé. Donc, dans ma tradition et dans la coutume nigériane, on ne peut pas ne pas respecter l'âge du président. Simplement, lorsqu'il s'agit de la vie des jeunes étudiants, lorsqu'il s'agit de l'insécurité dans un pays comme le Nigeria, Nous sommes obligés d'aller au-delà de ce respect que je dois, bien entendu, à mon président et à son âge, dû à son âge et à son rang dans la société nigérienne. Simplement, il y a un problème ici. Le gros problème, c'est que nous avons, dans ces dossiers d'enlèvement, etc., des gens qui se sont mis entre le gouvernement et les ravisseurs. Les gouvernements discuter avec les ravisseurs dans ces dossiers-là. Alors, pourquoi est-ce que quelqu'un, un terroriste, ce sont le nom qu'il faut leur donner, pourquoi est-ce qu'un terroriste viendrait enlever des enfants dans une école et le gouvernement viendra discuter avec eux, on dira d'accord, après discussion, prenez les enfants et ramenez-les à la maison. C'est faux. C'est du faux, archi-faux. Donc, ils ont payé. Qui a payé? Je ne sais pas. Combien ils ont payé, je ne sais pas, mais ils ont payé une somme d'argent pour libérer ces enfants-là. Autrement, non, cette industrie, je dis bien, de kidnapping, comme on le dit au Nigeria, ne va pas perdurer. Ça perdure parce que le gouvernement l'encourage en payant des rançons pour ces enlèvements-là.
Merci beaucoup, Monsieur Okpokpo Ebenezer. Et nous retrouvons à présent Fête Osundu en ligne de Lagos. Bonsoir, Madame Osundu.
Bonsoir, Liliane.
Oui, correspondante pigiste
bonsoir,
de.
Bonsoir, Liliane.
Bonsoir, correspondante pigiste de France 24. Dites-nous, Madame Osundu, est-ce que vous avez des informations précises sur les conditions de libération des 279 jeunes élèves kidnappés donc le 28 février dernier dans l'état de Zamfara et libres depuis ce matin?
Oui, Liliane, c'est une information encore très claire parce que de l'État de Zamfara affirme encore ce matin qu'il n'y a pas eu un échange quelconque entre le gouvernement et ces bandits, comme on les appelle également au Nigeria. Mais reste à savoir, il y a beaucoup de questions que tout le monde se pose par rapport à la libération de ces élèves. Est-ce qu'on parle juste de Zamfara Peace Accord ou alors on parle de quelque chose qu'on n'annonce pas à la population nigérienne ou bien à le monde entier qui est fixé sur cette histoire du kidnapping qui se passe au Nigeria. Il y a une constance, mais n'a pas été déclarée officiellement.
La ligne n'est pas très claire avec Lagos, Fête Osundu. Votre compatriote, avocat Maître Okpopo Ebenezer, vient d'affirmer que, à sa connaissance, il est impossible d'avoir libéré ces jeunes élèves sans contrepartie, que les autorités ont certainement versé une rançon pour obtenir la libération de ces jeunes élèves. Est-ce que c'est le sentiment également des Nigériens?
Oui, c'est un sentiment partagé.
Je suis désolée, on va vous interrompre, on va essayer de vous appeler par un autre canal, peut-être avec l'espoir de mieux vous entendre, Fête, pour participer donc à ce débat de Lagos. Docteur Diko, vous m'entendez?
Oui, je vous entends, madame.
Sur cette libération de ces jeunes filles, quel est votre sentiment? Puisque vous êtes chercheur spécialiste, vous travaillez sans doute sur cette question, non seulement parce que le Niger est voisin du Nigeria, mais parce que vous êtes aussi spécialiste des questions sécuritaires. Quelle est votre opinion, vous qui connaissez un peu mieux cette pratique de kidnapping?
Eh bien, je suis de l'avis de notre collègue maître qui vient de dire clairement que cette libération a été obtenue grâce à une rançon payée. Et ce qui est évident, aujourd'hui nous sommes inscrits dans une logique de la reconfiguration de la CIMI.
Allô, docteur Diko? Nous l'avons perdu, docteur Diko, à Zender, au Niger. Monsieur Julien Oussou, vous êtes à Cotonou. vous n'êtes pas encore connecté. Je vais donc rappeler que nous parlons ce soir de l'enlèvement devenu fréquent au Nigeria ces dernières années. Et le prétexte de ce débat, évidemment, c'est celui de 279 jeunes filles vendredi dernier dans l'état de Zamfara. Ces jeunes filles ont été libérées ce matin. Le débat porte sur les conditions de leur libération. Y a-t-il paiement ou non de rançon ? Non, affirme le gouverneur. Et pourtant, le président Mouamadou Bouhari estime que le paiement des rançons encourage les ravisseurs à continuer de le faire. Et nous allons retrouver notre invité, l'un de nos invités, Maître Opokpo Ebenezer. Finalement, vous parliez tout à l'heure, Maître, d'industrie de kidnapping. Et vous disiez que cela se poursuit parce qu'il y a des gens qui se sont mis entre les autorités et les ravisseurs. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée ?
Vous savez, je peux vous donner un exemple. Il y a un je ne l'appelle pas islamiste, un prêcheur qui s'appelle Goumou au Nigeria, Goumi plutôt. Cet homme était un ancien militaire et aujourd'hui, son travail consiste à aller entre, par exemple, Boko Haram et le gouvernement. Et c'est lui qui négocie les accords de libération de ceux-ci. Chaque fois que Boko Haram frappe, vous verrez Goumi entre le gouvernement et les ravisseurs. Ça, c'est un exemple pour vous dire qu'il y a des passerelles entre le gouvernement et ces bandits. Oui, je suis tout content.
Mais en même temps, il faut qu'il y ait des personnes qui négocient, qui servent de négociateurs entre les autorités et ces groupes armés. On en a vu au Mali ou au Burkina à l'époque, ou encore avec le Sénégal, entre le gouvernement sénégalais et la rébellion du MFDC. C'est forcément le cas au Cameroun, entre le gouvernement camerounais et les sécessionnistes anglophones. Il y a des personnes qui ont peut-être, dont la compétence en matière de négociation sont reconnues, qui doivent...
Non, pas dans ce cas-là, non, ça c'est faux. Ah, c'est faux, pourquoi ? Parce que le premier rôle, le rôle primordial d'un gouvernement, par exemple, d'un président, de son ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, etc., c'est de protéger les Nigériens. Si l'armée et la police sont devenues incapables de protéger les Nigériens, surtout au nord-est du Nigeria. Je suis désolé. Oui, ça encourage les enlèvements, ça encourage le kidnapping, ça encourage le banditisme. Tout simplement parce qu'il y a une absence de la présence gouvernementale. Simplement parce que les forces de sécurité ont échoué. Simplement parce que tout ce que nous avons, on a entendu et on nous a dit pendant les campagnes électorales pour dire que je vais conquérir les territoires perdus du Nigeria, je vais faire en sorte que nous n'ayons plus aucune bombe, je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enlèvement au Nigeria, c'était du pipeau, pour utiliser un mot poli. Aujourd'hui, le gouvernement
vous disiez qu'il y a un intermédiaire.
Je n'accepte pas. Qu'il y ait des ministres au Nigeria et qu'on soit obligé maintenant de faire appel à des bandits pour négocier avec des bandits pour libérer des personnes prises en otage. Non, je n'accepte pas. Lorsqu'un gouvernement fait ça, c'est que le gouvernement a échoué dans son rôle de protecteur des biens et des personnes. Et c'est ça le cas du Nigeria aujourd'hui. Il n'y a plus de forces de sécurité nigérienne capable de protéger la population nigérienne. Et je suis désolé, du nord au sud. Et donc, il ne s'agit pas de stigmatiser ce qui se passe au nord du Nigeria. Je suis Nigérian et je suis Nigérian partout au Nigeria. Donc, lorsque la population du nord du Nigeria souffre, je suis en train de souffrir dans ma chair. Voilà pourquoi je suis contre l'idée de faire appel à des personnes qui sont des bandits par définition pour aller négocier avec des bandits pour libérer des enfants.
Merci beaucoup, Maître Okpo Poupo, Ebenezer, et nous allons devoir marquer une courte pause et nous allons essayer d'écouter nos autres intervenants, Julien Ossou du WANEP à Cotonou au Bénin, ou encore le docteur Abdourahmane Diko de l'université de Zender au Niger, où il est enseignant-chercheur et spécialiste des questions sécuritaires, et Fête Oussoundou, journaliste correspondante pigiste de France 24 à Lagos, pour continuer à analyser parler du kidnapping au Nigeria.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Nous retrouvons nos invités, Julien Ossou, coordonnateur du WANEP au Bénin, Maître Okpopo Ebenezer, avocat nigérian basé en France, et Dr Abdourahmane Diko, enseignant-chercheur spécialiste des questions sécurité et politique à l'université de Zender au Niger, pour parler des réponses du gouvernement nigérian face aux enlèvements qui se multiplient dans le pays. Et nous avons retrouvé le docteur Diko. Est-ce que ce phénomène vous inquiète, docteur Diko, le Niger qui est voisin du Nigeria?
Allô?
Oui, docteur Diko, est-ce que ce phénomène vous inquiète-t-il?
Oui, de toute évidence, aujourd'hui, l'ampleur que le phénomène prend au Nigeria doit inquiéter le Niger qui partage une très longue frontière avec le Niger. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que c'est une pratique assez courante aujourd'hui.
Dommage, nous l'avons perdu. Maître Okpopo, on me fait signe pour l'instant que la ligne ne s'est pas améliorée avec notre consoeur Fête Oussoundou, qui est à Lagos, la capitale économique du Nigeria, et non plus avec Julien Ossou du WANEP au Bénin, le West Africa Network for Peace Building. Nous revenons à vous, Maître Okpopo, pour parler de la réaction du gouvernement. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que peut-être il y a un problème de compétence entre le gouvernement fédéral, ou peut-être plutôt de coordination entre le gouvernement fédéral et les autorités locales sur cette lutte contre les enlèvements au Nigeria?
Vous savez, madame, lorsque il y avait une élection présidentielle au Nigeria en 2015 ou 2014, le président Buhari nous a dit que avec son élection, il allait résoudre le problème en trois mois. Nous sommes aujourd'hui en 2011, c'est-à-dire 5 ans après, nous sommes toujours en train de parler de l'insécurité. Je le déplore, vous voyez, je ne suis pas heureux, mais il y a un problème, un échec de toute la ligne. Pourquoi? Parce qu'il a gardé des personnes incompétentes pendant 5 ans. Les Nigériens ont crié jour et nuit pour qu'ils changent de stratégie, pour que les personnes à la charge de la sécurité au Nigeria soient changées. Le président s'est entêté en les gardant jusqu'à il y a un mois ou deux mois, je crois. Pire encore, c'est pour montrer jusqu'à quel point on nous sommes tombés, c'est que dès que ces service chiefs, comme on les appelle, chefs de l'armée, chefs de la marine, chefs de l'air, chefs de la police, etc., ont été enlevés, ils ont été nommés ambassadeurs. Vous voyez dans quel état nous sommes. Et donc, il y a une insatisfaction générale sur l'approche du gouvernement, sur les problèmes relatifs à la sécurité des biens et des personnes au Nigeria. Nous ne pouvons plus accepter ça. Et je souhaite, bien entendu, que ceux qui ont été nommés à ces postes-là réussissent. Comme je vous ai dit, je suis nigérien.
Donc vous estimez que le problème, ce n'est pas au niveau de la clarification des compétences des entités fédérales et locales, mais c'est plutôt au niveau de la structure de l'armée?
C'est au niveau des instructions qui sont données, parce que si les soldats, les policiers, etc., ils obéissent plutôt aux ordres. Et donc, lorsque les ordres ne viennent pas, ils n'agissent pas. Il n'y a pas d'ordre donné à ces gens-là pour lutter contre l'insécurité au Nigeria. Parce qu'il y a une complaisance générale. On accepte ce qu'il ne fallait pas accepter dès le départ. Je ne sais pas quel est l'accord entre ces gens-là et ceux qui sont au gouvernement actuellement, mais il y a un problème énorme. C'est-à-dire aussi longtemps qu'on ne donne pas des instructions claires à ceux qui sont au front, c'est-à-dire luttent jour et nuit contre l'insécurité au Nigeria, nous ne pouvons pas réussir. Or, les ordres ne sont pas donnés. Voilà.
D'accord. Merci, maître. On va essayer à nouveau d'entrer en contact avec notre consoeur Faith Osundu. Faith, vous m'entendez? Allô, Faith?
Je vous entends.
Oui, voilà. Donc,
oui, je vous entends.
Nous avons terminé la partie de rançon ou non, mais quel est votre diagnostic aujourd'hui? Pourquoi ces enlèvements sont devenus si fréquents dans votre pays, le Nigeria?
Ces situations ne veulent pas être fréquentes s'il n'y a pas l'implication des autorités. Ça c'est un peu l'atmosphère qui règne au Nigeria dans les réseaux sociaux. On se dit ces bandits n'auront pas l'audacité de revenir à plusieurs fois pour entreprendre ou bien dérouler le plan de kidnapping. On parle de kidnapper 200, 300. Ça ne se fait pas dans 5 ou 2 minutes. Il faut une heure au moins, ce soir, et ce sont des enfants qui marchent dans les forêts. S'il n'y a pas complicité, on ne peut pas accomplir le kidnapping de plus de 300 enfants ou bien 200 enfants, comme on l'a fait en décembre, comme on l'a fait la semaine dernière. Il s'agissait de 42 personnes, et pour Zamfara, qu'on parle de 279 personnes aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu des différences dans les chiffres, mais regardons un peu le nombre d'enlèvements. On va dans une école, on enlève tout le monde, presque.
Donc, Faith, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une complicité.
Tout le monde se pose cette question. Il doit y avoir complicité.
De complicité à quel niveau? Allô?
On parle de complicité des autorités.
Oui, pardon, allez-y. Oui, des complicités des autorités au niveau des États où se passent ces enlèvements, ou complicité des responsables d'établissements ou des internats. À quel niveau se situerait cette complicité supposée?
À ce niveau, on est en train de penser que la complicité est en train de s'infiltrer davantage. Il y a tout à l'heure, j'ai lu quelque chose sur un site de Podium qui est en train de faire allusion à l'une des filles qui est dans les vendredis et qui dit qu'elle a vu le père de sa camarade d'école.
C'est dommage. La ligne est vraiment inaudible avec vous en ce moment. On va essayer à nouveau de vous relancer. Faith, vous m'entendez? Faith? Allô, Faith, vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Oui, votre voix.
Oui, je vous entends.
Voilà. Donc, vous disiez que. Qu'est-ce que vous avez lu exactement? Dommage, on ne peut pas continuer dans ces conditions. On va retourner à notre invité, Maître Okpopo, sur cette complicité dont parle votre compatriote Faith Osundu à Lagos. Vous aussi, c'est votre sentiment que, au-delà de tout ce que vous reprochez, le problème de la structure de l'armée, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des complicités des autorités dans ces enlèvements?
Oui, bien entendu, parce que si vous voulez, au nord du Nigeria, encore une fois, je ne souhaite pas stigmatiser, donc que les choses soient claires. Mais le problème, c'est que nous sommes entre nous. Et lorsqu'on est entre nous, dénoncer est devenu très difficile. Pourquoi? Parce que je crains pour ma famille, je crains pour les miens, etc. Donc personne ne parle. Aussi, nous parlons la même langue, nous avons la même culture, nous avons la même religion. Alors dénoncer devient très difficile. On ne dénonce pas, et c'est ça la difficulté. Parce que lorsqu'on envoie les soldats ou les forces de sécurité là-bas, ben, comme je parlais des instructions données, lorsque le chef refuse de donner des instructions, ben, parfois ce sont les petits qui se font massacrer. Et même lorsqu'ils commencent à faire leur travail, ben, ils sont rappelés à l'ordre, etc. Ça arrive dans l'armée nigérienne, ça arrive dans la police nigérienne, etc. Donc, il y a une complicité. À quel niveau, bien entendu, je suis incapable de vous dire, mais il y a
mais dans les négociations dont vous parliez tout à l'heure, vous disiez que comment on peut faire appel aux bandits pour négocier avec des bandits. Est-ce que vous voulez dire qu'au niveau des personnes qui interviennent dans la chaîne de négociation avec ces groupes armés, il y a peut-être des personnes qui souhaitent que ces enlèvements se multiplient et continuent pour pouvoir se faire un peu d'argent, et aussi au niveau des autorités locales qui continuent de payer les rançons contre les instructions, on va dire, du président Buhari. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait aussi de possibles complicités à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau des négociateurs et des autorités locales?
Il y a sans aucun doute des complicités. Parce que sans ça, sans une complicité entre le gouvernement local et ceux qui sont en charge des kidnappings, etc., ça ne se passera pas comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Parce que ce gouvernement dit lutter contre cette insécurité depuis. Et il n'arrive pas. Le gouvernement n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui encouragent ces bandits. Et lorsqu'on envoie, par exemple, des personnes qui ont, on n'envoie pas les diplomates, on n'envoie pas des juges, on n'envoie pas les hautes personnalités de la police et de l'armée pour aller négocier. On envoie des personnes qui sont en dehors de ce circuit de sécurité pour aller négocier avec des bandits. Comment ont-ils connu ces gens-là? Pourquoi? Quel est le lien entre ces gens-là et ce qui se passe au niveau? C'est ça la difficulté. Lorsqu'il y a une prise d'otage, lorsque l'armée commence à travailler, l'armée, par exemple, nigérienne, a déployé énormément de moyens pour trouver ces gens-là.
Merci.
Avant que l'armée arrive et libère les élèves, ça y est, bizarrement, sans rançon, nous dit-on, ils ont libéré. Pourquoi est-ce qu'on a déployé l'armée de l'air et l'armée de terre? Pourquoi?
Pourquoi
est-ce qu'on a déployé les forces de police pour le retrouver? C'est du people, comme je dis. Sincèrement, ce mot a un sens ici. C'est du n'importe quoi. Soit le gouvernement le fait pour essayer de dire oui, mais quand Buhari était là, chaque fois qu'on enlève des élèves, nous, en deux, trois jours, on les récupère pour essayer de se comparer à ce qui s'est passé avec les filles de Chibok.
En avril 2014. Merci beaucoup,
voilà.
Maître. On va essayer à nouveau d'entendre votre compatriote Faith Osundu qui est à Lagos. Faith, vous m'entendez?
Oui, je t'entends, Liliane.
Alors, Faith, très brièvement, on va parler des mesures mises en place par les autorités fédérales pour mettre fin au kidnapping. Vous-même, vous disiez tout à l'heure que de votre point de vue, il y aurait des complicités. Vous êtes donc d'accord avec votre compatriote d'ici dessus. Mais au-delà de ces accusations, que fait exactement le pouvoir central fédéral pour lutter contre cette pratique?
Jusqu'à ici, on a eu le président Mohamed Buhari qui est sorti, a fait une sortie la semaine dernière quand on a kidnappé ses élèves. Donc, il a dit qu'il va prendre des mesures des militaires pour un déploiement de nouveau, parce que ce n'est pas la première fois qu'on va déployer des militaires au nord. C'est vrai que dans l'état de Zamfara et du Niger, c'est un peu à la baisse. Parce qu'on a négligé ce côté, mais je pense que le gouvernement a déclaré qu'il va commencer à déployer beaucoup plus les militaires et les policiers dans ce côté du nord du Nigeria. On parle un peu de peut-être 100 polices, 100 policiers pour 300 villageois. Donc, il y a problématique si c'est un endroit qui est infesté par des bandits et qu'on a moins de sécurité par rapport à la population qui existe dans ce lieu. Il y aura problème forcément. Donc je pense que davantage, on va un peu voir ce que le gouvernement va faire. Parce qu'il ne reste pas que de parler, mais il faut vraiment avoir une action concrète sur le terrain.
Voilà. Et lorsque le président Buhari demande au gouverneur, en quelque sorte, de ne pas marchander la libération et donc ne pas verser de rançon pour libérer ses élèves enlevés, qu'est-ce qu'il propose exactement alors lorsque ces enfants sont kidnappés?
ce qu'ils proposent n'est pas clair, parce que la mesure de la négociation, c'est quelque chose qui se passe dans le Nord depuis des années. On parle des enfants à Peace Accord qui a été signé en 2019, par exemple.
Les accords de
on
paix.
On parle aussi des autres. Oui, l'accord de paix.
C'est-à-dire voilà. que ces groupes armés, ces hommes armés déposent des armes en échange d'une liberté.
Oui, d'une liberté ou bien de leur qui se trouve en prison. Il y a plusieurs mesures. On mesure un peu le crime et on voit comment faire, comment négocier. Donc, pour l'instant, moi, je pense trop, Liliane, qu'il y a beaucoup plus une mafia dans ce kidnapping qui se passe dans le Nord. Parce qu'on ne peut pas faire du kidnapping des élèves. Et je disais tout à l'heure que quand je lisais un article sur le net de Podium, plus précisément, qui est en train de citer.
Faites au Sundu, je vous propose de revenir juste après la pause plus calmement sur ce que vous avez lu et partagé avec nos auditeurs. On va marquer une toute petite pause. On se retrouve pour écouter vos explications donc sur ce point.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et quelles sont les mesures mises en place par les autorités nigérianes pour mettre un terme aux enlèvements de jeunes élèves qui se multiplient? Nous en parlons ce soir avec nos invités, Fête Ousundou, journaliste et pigiste et correspondante de France 24, que nous allons d'ailleurs écouter tout de suite. Fête, votre compatriote, Maître Popo, parlait de l'industrie du kidnapping. Vous vous dites qu'il y a une mafia autour de ces enlèvements et aussi, vous évoquez une complicité possible. Et vous parliez avant la petite pause que vous avez lu un document qui, semble-t-il, allait dans ce sens.
J'ai lu un document sur The Podium. C'est un journal dans le nord du pays qui parlait de la possibilité de l'implication de certains parents d'élèves, même les secteurs d'autorité de l'école, parce qu'il y a, il parle d'un témoignage qu'une des filles dit qu'elle a vu une autorité de l'école parmi les bandits. Et d'autres disent qu'elles ont vu le père de leur camarade d'école. Bon, il y a une complicité, c'est une piste à regarder, parce qu'on se pose beaucoup de questions sur cet aspect de kidnapper des enfants innocents. Avant, c'était tuer les villageois, ils prennent leur bétail, et puis jusqu'à là même, il y a aussi beaucoup de questions. Mais quand on revient aux écoles, ça devient plus perturbant.
Il y a justement la directrice du Centre for Democracy and Development, Madame Hidayat Hassan, qui affirmait que ces groupes criminels, pour eux, c'est le moyen, les enlèvements sont le moyen le plus simple d'obtenir de l'argent du gouvernement. Est-ce que dans ce cas-là, le gouvernement ne devrait-il pas justement réajuster sa réponse face à ces cas répétés de rapt?
La situation dans le nord du Nigeria est un peu différente à cause de comme on se dit là-bas, le niveau de la pauvreté ou bien le niveau de l'éducation. Bon, c'est un peu différent. Il y en a tellement des institutions et plus des school of thought dans le nord, surtout avec la religion aussi qui se trouve là-bas. Les gens, il y a beaucoup de choses qui entrent dans le jeu.
Oui, mais j'ai dit, s'il y a justement cette, si on doit accentuer la réponse sur cette piste de complicité, que doit faire le gouvernement aujourd'hui pour adapter sa lutte contre le kidnapping au regard de cette implication supposée des parents ou des responsables d'établissement, sachant que voilà, c'est le moyen le plus simple pour eux aussi de s'enrichir. Comment doit faire le gouvernement?
Tout le monde doit rendre compte de ses actions, Liliane. Si je suis impliquée dans un crime, je dois être amenée à la justice. Mais parce qu'il n'y a pas de justice, il y aura une autre situation. Je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire, puisque c'est un moyen simple de m'enrichir ou d'enrichir ceux qui sont impliqués dans cette affaire.
Merci.
Donc, absolument, le gouvernement doit amener la justice doit prendre son cours dans cette affaire.
Merci beaucoup. On me fait signe que Dr Abdourahmane Diko, en ligne de Zender, est là. Dr Diko, vous m'entendez?
Oui, je vous reçois, madame.
Nous avons évolué dans le débat et nous essayons maintenant de voir comment le gouvernement peut réagir face à cette situation. Notre consoeur Fête Oussoundou affirmait qu'il y a de plus en plus des indices qui laissent penser qu'il y a une implication des parents d'élèves, certains responsables dans ces enlèvements. D'autres organisations affirmaient que pour les groupes criminels, les enlèvements sont devenus le moyen le plus simple d'obtenir de l'argent et de s'enrichir.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire, que doit faire le gouvernement aujourd'hui? Sur quel point faut-il accentuer sa réponse pour lutter efficacement contre ces enlèvements au regard de ces éléments?
J'avais commencé à expliquer un peu que nous assistons à une reconfiguration de l'asymétrie où l'État lui-même devient responsable de certaines situations plus ou moins malheureuses. Responsable de la mesure où l'État...
Décidément, on n'a pas de chance avec notre spécialiste de la sécurité au Niger. Je vais revenir à Paris avec Maître Okpopo. Comment le gouvernement doit-il faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut peut-être, une fois les élèves libérés, les interroger et tenir en compte ces révélations faites peut-être par les élèves enlevés sur la complicité supposée de leurs responsables?
La situation va s'améliorer le jour où le gouvernement réalisera qu'il y a un véritable problème d'insécurité. Pour l'instant, le gouvernement joue le jeu de celui qui ne voit pas, le jeu de l'autruche. Il ne voit pas et il suffit d'entendre son ministre de l'Information, M. Lai Mohamed, pour comprendre que le gouvernement ne veut rien faire, absolument rien.
Est-ce qu'il en a les moyens?
Oui, le Nigeria a les moyens de lutter contre ça. Ça, je suis convaincu. Simplement, il faudrait que les responsables se lèvent et luttent, commencent à travailler.
Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est ça la question. Mais que doivent-ils faire?
D'instructions claires. Nous avons un problème d'insécurité. Donnez les instructions, donnez les ordres à l'armée, donnez les ordres aux policiers et ils vont faire leur travail. Ils sont formés pour
ça. Donc vous pensez qu'au sein de l'armée, il y a un véritable problème de leadership alors que c'est un ancien général, Mouamadou Bouhari, qui est quand même à la tête du pays?
Oui, mais ça c'était hier, comme dirait ma fille. Ça c'était hier. Le général Bouhari, c'est terminé. Nous avons un président qui n'est plus général depuis des années et ce n'est pas parce qu'il était général que maintenant les autres obéissent à ses ordres. Et ils doivent obéir à ses ordres en tant que président. Malheureusement, ils ne font qu'à leur tête.
Mais docteur, Maître Okpopo, dans quel intérêt le président Bouhari se priverait de donner des instructions visant à empêcher ces kidnappings et se refuser à le faire?
Mais il le donne, simplement, c'est ceux qui sont chargés ne le font pas. Et le président, parce qu'il est âgé, parce que peut-être, je ne sais pas, il n'a pas les moyens de rappeler ces gens à l'ordre. C'est ça la difficulté au Nigeria.
Merci.
Le président est absent. Il est où, monsieur le président? Il parle nigérien lorsqu'il y a des catastrophes? Rien. Il y a des événements graves au Nigeria, le président est absent. Pourquoi? Je ne sais pas. Et c'est ça la difficulté.
Nous allons conclure avec Fête Oussoundou. Fête, vous m'entendez? Le président du Sénat a déclaré qu'une nouvelle stratégie devrait être adoptée pour assurer la sécurité des écoles et faire face à cette vague d'enlèvements. Parce que cela pousse certains parents à ne plus envoyer leurs enfants à l'école. Quels sont les actes forts que vous espérez, que vous attendez des autorités pour vraiment mettre fin à ces kidnappings?
Liliane, je vais prendre un peu l'idée de l'ancien président, Olusegun Obasanjo, qui a écrit une lettre ouverte au président Mouhammad Bouhari. Il est temps de vraiment appeler à un dialogue national. Parce qu'au fond du kidnapping, il y a des problèmes réels. Le manque d'emploi, la pauvreté, l'éducation. Il y a tout ça qu'il faut vraiment régler si on veut vraiment régler ce problème aussi de kidnapping en long terme. C'est vrai, s'il y a des gens qui sont impliqués, il faut les amener à la justice, mais au fond, il faut aller au fond du problème. Tous ces problèmes, il faut vraiment en parler avec les autorités locaux, et puis les jeunes, et puis le gouvernement, les membres du gouvernement, et résoudre ce problème. Ça sera un voyage, je ne sais pas combien d'années, mais c'est graduel, mais il faut avancer. Moi, j'attends, c'est ce que j'attends du gouvernement.
Merci beaucoup. Fethou Soundou, en 20 secondes, docteur Maître Ebenezer.
Oui.
Oui, quelle solution rapide vous attendez? Est-ce qu'il faut inclure toutes les entités, comme le suggère votre compatriote Fethou?
Mais bien entendu, mais il faudrait que ceux qui sont nommés obéissent au président de la République. Lorsque le président de la République, le général Bouhari, dit quelque chose, qu'on le respecte et qu'on l'exécute, c'est tout. Pour l'instant, ce n'est pas fait et c'est ça la difficulté.
Maître Okpopo Ebenezer, avocat, membre de la diaspora nigériane ici en France, merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci à notre consoeur Fethou Soundou, pigiste et correspondante de France 24 à Lagos au Niger. Nous n'avons pas pu entendre, comme le souhaitions, Dr Abdourahman Diko, chercheur à l'université de Zender au Niger. Et c'est ici que prend fin votre émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.